Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studio Zef 91.1 FM. Aujourd'hui je suis avec Martine, bonjour Martine.
Bonjour, bonne année.
Bonne année à tous et à toutes. On souhaite à tout le monde une très très bonne année et on vous souhaite à tous de voir de très bons films encore cette année et notamment par cinéphiles. Ça va être le cas notamment des deux films qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on parle d'un documentaire et de deux documentaires en fait, effectivement, dont un sera, il y aura un événement autour, en tout cas on le fait dans le cadre de Génération Climat organisé par la Allograin. Mais on va parler d'abord d'un documentaire d'un réalisateur qui n'est pas, on va pas dire que c'est un inconnu ce réalisateur, c'est réalisé par Werner Herzog, le nouveau documentaire de Werner Herzog, Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft.
This film is in memory of Katia and Maurice Kraft, volcanologists from the Alsace region in France. Almost everything that we are going to see is footage shot by them. Something so awe-inspiring in it, so never seen before, that attracted me as a filmmaker. They lost their lives together, capturing the might of volcanoes. This is their legacy.
Okay. Un documentaire qui est plus un montage, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'images filmées de Werner Herzog. En fait, il a pris des images qui ont été capturées par Katia et Maurice Kraft, qui sont donc des volcanologues, et ils utilisent les volcans de très près. Et donc, il a utilisé beaucoup d'images là, et lui est en narration et fait un montage qui est une sorte d'un peu de requiem autour en fait, de leurs images. Voilà. Donc, Martine, je sais que c'est un film que tu as vu 4 fois, tu m'as dit, avant d'enregistrer. Donc, je pense que c'est un film que tu as aimé. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti sur ces différents visionnages?
Alors oui, j'ai été fascinée par cette histoire de volcan et puis aussi par ce couple que je ne connaissais pas, le couple Kraft.
Non plus.
Et en fait, toutes les images, comme tu as dit, sont des images qui sont issues des photographies et des films de ce couple. D'ailleurs, j'ai vu que ces archives sont disponibles au Musée d'Histoire Naturelle de Paris et au centre en Auvergne
Vulcania.
Vulcania, ouais. D'accord. Donc, elles vivent encore, en fait. Il y a, 300 heures de films. Enfin, c'est énorme. Et donc, Werner Herzog, qui est quand même le génie des prises de risques au niveau de ses recherches cinématographiques, c'est son troisième film sur les volcans. Il y avait Into the Inferno et La Soufrière. Et donc là, il puise complètement dans les archives, dans les images de Maurice Kraft. Il fait un montage avec ces images sublimes, on va dire. Donc, il ne faut pas s'attendre à un film où il y aurait des explications scientifiques, alors que c'était quand même un terrain de recherche de ce couple, notamment dans la prévention des risques. Enfin, vu les catastrophes humanitaires que provoquaient les volcans, ils en ont visité une cinquantaine, ils ont œuvré dans le fait qu'il fallait prévenir les populations, et donc leur recherche scientifique s'est beaucoup axée là-dessus. Mais surtout, Werner Herzog, il s'intéresse à la beauté de ces images. C'est assez troublant parce que donc lui, il en fait un requiem, c'est-à-dire qu'il laisse les images parler d'elles-mêmes sur des musiques de forêt, verdie, etc. Et donc là, c'est des moments de pure poésie. images et musique, mais aussi la trame narrative, c'est lui qui la donne parce que il donne sa voix en voix off du film. En anglais, sous-titré français, je précise, si jamais vous voulez emmener vos petits-enfants de 3 ans.
Oui, tu m'as raconté une anecdote juste avant, un peu curieuse. Oui, voilà. Oui.
Donc en fait, moi j'ai tendance à penser que c'est une co-réalisation entre Herzog et les Kraft, parce que bien sûr, il emprunte leurs images, mais le montage, la sélection, le choix des images est de lui. Et ainsi que la trame narrative. Donc, il y a ces moments de pure poésie. Le film débute sur la mort des Kraft, comme ça on est prévenu, oui. au Japon en 1991. Et après, il se déroule donc avec ces moments très poétiques. Et peu à peu, on va dire que dans le troisième tiers, il choisit des images qui sont plus en rapport avec les catastrophes humanitaires. Et là, on n'est plus dans les rouges, on n'est plus dans les jaunes, on n'est plus dans le feu, mais on est plus dans la cendre. Et même, ça se termine sur des images de phoques, des images d'oiseaux. Enfin, oui. Il va chercher autre chose dans les archives des Kraft et qui serait plus du domaine de l'exploration des territoires. Et évidemment, les conséquences des éruptions volcaniques voilà, dans tous les coins du monde, en fait. Voilà. Donc, voilà, Herzog et Kraft, en fait, c'est un mélange détonnant. Je pense que c'était peut-être le seul qui aurait pu rendre un si bel hommage, parce que on connaît, je connais pas trop la filmographie de Werner Herzog, mais je sais qu'il a filmé dans les grottes, les volcans, la Sibérie, les prisons, enfin il a une filmographie qui est en rapport avec sa prise de risque. Oui. Son goût pour la beauté des images.
Ouais. Oui, en fait, c'est souvent ça, c'est notamment de Aguirre, La colère de Dieu, par exemple, enfin, d'autres films comme ça, où il y a toujours un rapport entre l'être humain et la nature, en fait, ou en tout cas l'environnement dans lequel il se trouve, un des liens forts qui se font entre les deux, qui est ça qui peut être des liens de passion, des liens qui peuvent être. Qui peuvent des fois être dangereux, etc. Et ça traite ça. Et ce documentaire-là, finalement, en parle aussi de ça, enfin, à sa façon. Donc, c'est un regard qu'Herzog a sur eux, en fait, qui se sert un peu de leur image aussi pour faire un constat aussi, comme tu disais, sur l'évolution climatique, en fait. Il y a aussi tout un discours écologique dans le film qui se fait par le prisme des travaux de Katia Maurice Kraft. Il y a aussi ce rapport de il s'approche, il les montre, il commente qu'il voit des personnes qui s'approchent de plus en plus du feu, quoi. Et il s'approche d'une vraie beauté. Il y a des longs moments où il y a une vraie symphonie de lave, quoi, et où il y a vraiment où il filme à un moment donné et où il laisse où d'ailleurs il le dit, hein, je vous laisse les images, je vous laisse contempler ces images là où il y a pas besoin de commentaires. Il commente pas et il laisse juste avec une musique classique en fond un très beau montage de moments volcaniques. Et donc il y a vraiment comment on s'approche aussi d'une certaine beauté qui amène à leur mort, hein, le fait qu'on commence par annoncer leur mort et qu'on revient dessus à la fin du film. Il y a quand même il y a aussi là-dessus une sorte de passion de cette nature-là qui nous enivre un peu. Et c'est quelque chose qui revient toujours dans sa film. Enfin, toujours, je connais pareil comme toi, je ne suis pas un spécialiste de sa filmographie, mais de ce que je connais, de ce que j'en ai vu, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, ce rapport de l'homme presque destructeur et passionné, les deux ensemble, face à un environnement. Et voilà, c'est ça que je trouve très très beau dans ce film-là. Il y a une poésie, du coup, qui est magnifique. Effectivement, tu disais. tout à l'heure, notamment avec les enfants qui viendraient voir un film sur les volcans. Alors évidemment, vous allez voir des belles images de volcans, hein, c'est sûr, parce que évidemment qu'on utilise des travaux de volcanologues, mais c'est un film qui est presque expérimental et presque, ouais, il y a quelque chose, une vraie réflexion sur deux scientifiques qui comparent presque à des artistes, je trouve. Et comme tu disais, le fait que ce soit des co-réalisateurs, je trouve que Herzog les considère presque comme des artistes dans la façon de faire. Mmh. C'est pour ça qu'effectivement, ouais, il y a cet aspect de ce film-là qui est fait par deux regards, en fait, qui se sont croisés, sans vraiment se rencontrer.
Mmh. Et on peut même voir que finalement, c'était des grands scientifiques, mais c'était aussi un très bon caméraman et une très bonne photographe, c'est-à-dire ils sont des artistes d'une certaine manière de l'image aussi. Voilà.
Bien sûr, mais le fait que ce soit, il leur redonne cette place artistique dans son film quelque part, Herzog en fait, parce que évidemment, comme tu dis, ils sont au Musée d'Histoire Naturelle, donc évidemment, quand je pense que tout le monde pense que ces images sont belles, mais elles sont utilisées dans un cadre informatif, enfin en tout cas éducatif, en tout cas, et dans un cadre historique aussi de témoignage. Mais là, il leur redonne tout à fait leur grande qualité artistique de ces images aussi, leur simple beauté aussi. Mmh. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que c'est aussi un film sur le beau aussi, je trouve, sur le naturellement beau de ce qu'on peut trouver sur notre planète, quoi.
Ouais, sur le sublime.
Exactement, ouais. Donc, et c'est un film qui laisse la place à ça. Et Herzog commente beaucoup, mais laisse beaucoup de place au silence aussi. Donc, il y a un vrai équilibre par rapport à ça. Vraiment, il nous accompagne. Hein, il est presque un compagnon de voyage pendant ce film-là. Il nous accompagne sur ses images. Il nous donne des fois son point de vue sur les images qu'il a monté, etc. Je pense que c'est un travail d'orfèvre qu'il a dû accomplir, parce que, comme tu disais, il y a énormément d'heures, et c'est un vrai travail de montage qu'il a pensé, et je trouve que le film dégage quelque chose d'assez sublime au niveau de la poésie, enfin voilà. On ne va pas répéter les superlatifs, mais on vous conseille en tout cas vraiment de le voir. Parce que, en fait, pour contextualiser, le film est sorti à la télé déjà, sur Arte, il y a 2 ans, en 2022. Donc là, c'est sa première sortie en salle, en France en tout cas. C'est la sortie nationale en France. Donc c'est pour ceux qui l'ont vu à la télé déjà avant, au moment de sa sortie télé sur Arte, retourner le voir en salle, parce que je pense que c'est un film qui gagne encore plus d'être vu dans une salle de cinéma par la beauté de ces images là et puis par l'immersion en fait de l'ambiance que veut instaurer Herzog dans son film, on peut que vous recommander d'aller le voir au cinéma au moment de sa sortie le 8 janvier. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Martine.
Non, simplement, du coup, je me suis un petit peu intéressée à justement les travaux d'Herzog. Mmh. Et à la bibliothèque de Blois, j'ai emprunté le film qu'il avait fait sur Chauvet, les grottes Chauvet. Et je me suis dit, cet homme, en fait, il est toujours au bord d'un précipice, mais soit du côté d'une beauté rare, ancestrale. Presque mythique, presque. Et voilà. Faudrait regarder aussi Chauvet.
Oui, tout à fait.
Qui est interdite au public, mais justement, on peut voir.
Il y a une reconstitution qui a été faite à côté.
Mais... Et lui, il est descendu dans la grotte.
Dans la grotte, oui. Mais de toute façon, les images. Les images de Herzog, les documentaires de Herzog, justement sur différents environnements qu'il a filmés, à chaque fois, c'est sublime à regarder. Hein. Le film sur Lascaux est vraiment magnifique.
Sur Chauvet.
Chauvet, pardon. C'est le film sur la grotte de Chauvet est vraiment magnifique.
On en apprend beaucoup, en fait, sur les premières images. Ouais.
Et Herzog, c'est quelqu'un qui a toujours départagé entre le documentaire et la fiction. Mais malgré tout, on retrouve quand même... ces films, ces documentaires ont vraiment une immersion qu'on peut retrouver dans la fiction. Et ces fictions ont des fois un vrai aspect de regard de documentaire aussi, des fois. Donc les deux travaux se mélangent toujours très bien dans les films de Herzog. Et c'est pour ça que je pense qu'il est autant passionné par les deux, d'ailleurs, la fiction et le documentaire. Au cœur des volcans, est aussi un film passionnant à regarder là-dessus. Voilà. Donc, okay. Je pense qu'on peut peut-être conclure sur, là-dessus, sur le film de Herzog. Voilà. Oui. Donc, on ne peut que vous recommander donc, d'aller le voir en salle à partir du 8 janvier, bah, du coup, d'aujourd'hui. Donc, bah, dès aujourd'hui, à 18h15, là, sa première séance. D'ailleurs, je serai là pour présenter le film avant sa séance. Donc, voilà, n'hésitez pas à être là à partir de demain, 18h15, et après, sinon, pour 5 autres séances sur les 2 prochaines semaines. Voilà, donc, on va conclure sur le film de Herzog, et on va donc maintenant parler d'un film qui est pour le moment en séance unique. On verra, parce qu'il n'est pas encore sorti en salle, on vous en dira plus au moment de sa sortie, qui sortira à peu près au mois de mars. Mais là, pour l'instant, on va parler d'un film qu'on va diffuser. Donc, en avant-première, comme je vous l'ai dit en introduction, dans le cadre de Génération Climat, qui est un événement organisé par la Allograin. Donc voilà, avec différents événements autour de la thématique du climat. Et donc, nous, cinéphiles, nous participons en proposant un film dans lequel sera issu un débat après le film. Donc, le film en question, parce que j'ai toujours pas dit le titre, le film en question s'appelle donc Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective, un film portugais de Paolo Carneiro, donc un documentaire, bon, je pense que Martine, tu vas nous en parler, mais un peu particulier, on va dire, des fois on se demande si c'est totalement un documentaire sur certains aspects montrés, tu vas m'en dire plus, mais c'est pas vraiment un documentaire du coup.
Non. C'est, voilà. Là, du coup, si on s'attend à un genre précis, on va être déçu.
Ouais.
Parce que là, lui, il a le don de mélanger un peu tous les genres. Mais c'est normal, parce qu'en fait, il a voulu rendre hommage aux villageois qui habitent donc Barroso, qui est au nord de Porto, dans les montagnes, mmh. Ou des villageois qui sont rentrés en résistance contre une multinationale. Savannah Ressources, qui donc vise à exploiter du lithium dans ce territoire qui, vraiment, au même moment, a été classé comme patrimoine par l'ONU. Le patrimoine pour son agriculture et son paysage. Donc c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on veut préserver ce paysage, et d'un autre côté, il s'agit d'exploiter sur quand même 593 hectares du lithium. Bon, là, je pense que pendant le débat, il y aura plus d'explications. Moi, ce que j'ai compris, oui, c'est qu'en fait, ce serait une grosse opportunité pour l'Europe, parce que jusqu'à maintenant, le lithium, donc pour les batteries, les voitures électriques, etc., nous vient d'Amérique du Sud et de Chine. Donc là, effectivement, les politiques, ils encouragent cette extraction par cette multinationale. Mais la résistance des villageois, qui s'est grossie avec d'autres activistes, fait en sorte que pour le moment, c'est encore un peu bloqué, je crois. Donc, c'est une histoire à suivre, on en saura plus pour le débat. Néanmoins, ce film, par ce jeune réalisateur, qui est à la fois producteur, réalisateur, monteur, en fait, il a tout fait dans ce film. Il est lui-même portugais, il a eu vent de cette histoire d'exploitation de lithium, il est allé dans le village, et là, il s'est engagé auprès des villageois à faire un film avec eux. Donc, c'est pour ça que c'est pas un documentaire, c'est pas un film sur eux, c'est un film avec eux. C'est-à-dire qu'il avait un fil narratif, mais il a commencé à tourner donc en pellicule, ce qui fait qu'il y a quand même aussi une économie de voisins. Une économie de moyens. Et il a une façon particulière. Alors, d'habitude, il y a l'écriture, le tournage, le montage. Alors que là, lui, il a écrit un peu, mais il a remodifié son écrit en tenant compte des discours des villageois, des idées des villageois, de leur. Ensuite, il a monté et ensuite il a retourné. C'est-à-dire que l'écriture, elle s'est faite à peu près à tous les moments. Et c'est normal parce que du coup, c'est la lutte continuait pendant ce temps-là. Donc les villageois, ils allaient s'occuper des vaches, s'occuper des terres. Et, ils avaient un petit peu, et puis de la lutte. Et ils avaient un petit peu de temps à consacrer pour être acteurs dans le film. Donc voilà un peu comment, quel est le dispositif. Et donc, ça va être difficile de donner un résumé parce que c'est quand même la transposition d'une lutte dans un autre temps, avec d'autres moyens que de filmer la lutte. Donc, il y a des images qui font penser à un western.
Oui, bah ça se joue beaucoup sur ces codes-là. Oui.
Voilà. Il y a des images, il y a des chants.
Il y a des enlèvements, notamment. Enfin, moi, il y a une scène d'enlèvement qui m'a marqué parce que à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais on n'est pas dans un documentaire là, parce que tu peux pas filmer ça. Tu peux pas filmer ça de toute façon.
Tout est transposé dans une fiction.
Oui, c'est ça.
Anachronie.
Mais il y a un aspect documentaire, ce que je trouve quand même. Il y a des moments où tu sens qu'il montre un certain réel dans ces personnes-là. Donc il y a quand même un aspect documentaire qui est important quand même. Même si Fuglis n'en est pas vraiment dans sa construction, mais j'en ai un peu quand même,
ça puise dans cette lutte, oui, mais ça la transforme.
Ça la transforme,
En un film. Il y a les villageois, donc ils apprenaient leurs textes avant, mais c'était aussi des textes issus de leurs paroles, enfin, je veux dire. Mm-hmm. C'est une co-réalisation, en fait. Et c'est en cela que ce film... C'est assez rare de faire des films comme ça. Et surtout... Il y a un moment où moi je l'ai... Oui, il est passé à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Heureusement que Cannes l'a repêché, parce que sinon, évidemment, vu sa forme, personne ne voulait le financer. Et surtout pas les multinationales, on va comprendre pourquoi. Et donc, ce repêchage sur Cannes lui a donné une vraie visibilité, parce que c'est un... C'est un objet inédit, en fait. Je ne sais pas trop quoi raconter, mais...
C'est ça, c'est un film qui a une forme assez particulière, comme tu l'as dit. Et oui, moi, c'est un film, je ne savais pas sur quel pied danser, mais c'est un film qui est extrêmement quand même passionnant à regarder là-dessus, parce que, comme tu dis, c'est un film qui puise plusieurs genres différents. Le film, du coup, est assez passionnant là-dessus. Déroutant, je ne vais pas vous mentir. Hein, c'est des fois un peu déroutant, mais il y a une vraie... énergie, je trouve, qui est employée dans la forme, etc. Et j'imagine que ça va pas être un film qui va forcément être évident à distribuer. En tout cas, les distributeurs, par exemple, le titre original du film, elle s'appelle Savannah and the Mountain. Enfin, et en portugais, le même titre, mais en portugais, Savannah et Montana, si je me trompe pas. Et donc là, maintenant, le film a été transformé par les distributeurs français du film Météor, Covas do Barroso. Donc, bon, qui est un titre, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire donc Chronique d'une lutte collective, qui est donc le sous-titre derrière, pour un peu plus situer la thématique. Voilà, parce que j'avais discuté un peu avec les distributeurs, il se trouve que voilà, ils savent que c'est un film pas facile à vendre, et du coup ils basent le titre pour comprendre, pour que les gens comprennent. Ils ont gardé le titre original pour que les gens comprennent la localité, et mettent la traduction en bas pour que les gens comprennent
c'est une lutte.
Voilà, c'est ça, le sujet du film, les thématiques du film et ce qu'ils vont y voir, parce que c'est vrai que c'est pas un film forcément évident à appréhender et à vendre, en tout cas. à mettre une étiquette, comme tu dis, c'est pas évident. En tout cas, quand tu vois dans la fiche du film, c'est marqué documentaire. Ouais. Donc il y a une étiquette qui a été décidée là-dessus, en tout cas, sur cette forme-là. C'est quand même plus compliqué. Ça
va beaucoup plus loin que le documentaire, parce qu'on dit toujours que le documentaire, il n'y a pas d'acteur, c'est ce qui fait sa forme.
Ouais.
Mais là, je tiens à préciser que c'est un film qui est fait avec eux. Il y a des passages qui sont très drôles, en fait. Aussi.
Oui. C'est bourré d'humour.
C'est assez bourré d'humour. Et notamment, il y a des passages où les habitants, ils sont tous sur un tracteur. On s'attend à une grosse manif. On a déjà vu ce genre d'image. Sauf que là, c'est aussi une façon d'immortaliser leur visage, leur personnage. Enfin, leur... Oui. personnages dans le film, mais en lutte, en vrai. Quoi.
Oui, exactement, ouais. Je suis d'accord. Et donc, oui, dans le film, je ne l'ai pas précisé, mais Génération Climat, la thématique de cette année, c'est l'écoféminisme. Alors, on n'est pas été complet. C'était difficile de trouver un film sur le sujet, mais malgré tout, il y a quand même des personnages de femmes assez importants dans le film. Voilà.
Plutôt très actives. Et,
exactement. Donc, ouais. Ce n'est pas forcément un film sur le féminisme en tant que tel, non. Mais par contre, c'est un film où, quand même, les personnages féminins
sont à l'honneur.
C'est exactement ça. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as des choses à dire sur un peu sur les différents personnages féminins du film, mais en tout cas, moi, ils m'ont interpellé.
Bah, on sent qu'elles nourrissent aussi l'intrigue. Elles sont malines, elles sont audacieuses.
Exactement, oui. Ouais.
Je dirais pas que les hommes, ils sont en arrière-plan, non. Parce qu'ils suivent aussi, mais elles mènent un peu la danse aussi, dans leurs idées et dans leurs... Et dans les propositions qu'elles ont faites aux cinéastes.
Oui, je suis complètement d'accord.
Enfin bon, il faut qu'on donne envie d'aller le voir, même si ce n'est pas un film où il y a un début, un milieu, une fin, et qu'on est dans des codes complètement différents, parce que c'est quand même un objet de recherche et c'est drôle.
Oui, oui.
Et puis ça nous fait s'intéresser à cette lutte qui est encore actuelle. Hein.
Ah oui, bien sûr, toujours. Et
qui c'est... risque d'arriver en France aussi, parce que j'ai vu qu'ils allaient peut-être faire la même chose, parce qu'il y a du lithium.
Oui. C'est un vrai sujet.
Dans l'Allier.
Le côté du lithium, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, effectivement, c'est bien que le film puisse mettre en avant cette thématique-là.
Et avec le débat aussi.
Exactement. Ouais. Le débat, bien sûr qu'on va parler aussi du film, mais ça va être aussi une occasion de pouvoir explorer quand même les thématiques qui sont explorées dans le film, d'avoir plus de précision avec des personnes plus connaisseuses pour préciser un peu le sujet que vous venez de voir dans le film. Parce que vous allez voir un film vraiment... Vous n'allez pas voir un film informatif, enfin, vous allez apprendre des choses, bien sûr, mais vous allez voir une vraie œuvre d'art, et nous, on va y apporter en plus l'élément pour créer une discussion, en tout cas, voilà. Et donc, ce débat-là sera donc le jeudi 7 janvier à 20h30, ça sera en présence de Olivier Gaudin et Sébastien Lemaire, enseignants à l'École de la Nature et du Paysage, et Hugo Raguet, enseignant en informatique à l'INSA. Ça sera donc, c'est le dernier film dont on va vous parler aujourd'hui dans cette émission. Voilà, on espère que vous serez tous présents le jeudi 7 janvier et puis pour Au cœur des volcans de Werner Herzog. Voilà, je ne sais pas si tu as un dernier petit mot pour me dire au revoir, Martine.
Oui, enfin, après, c'est vrai que la programmation de janvier-février, on a beaucoup de documentaires.
Oui, beaucoup de documentaires.
Donc il faut bien regarder le programme. On a Ernest Kohl,
Ernest photographe,
Riefenstahl.
C'est ça.
Et bon, il y aura d'autres émissions.
Voilà. Ernest Kohl, on n'en parlera pas parce que je pense pas que je trouverai une autre personne. Bon, ça je le couperai, mais qu'on trouve jamais de personne au micro. Ernest Kohl, on n'en parlera pas. Par contre, une Riefenstahl, oui, je pense qu'on va en reparler dans pas longtemps. Et après, voilà, on a quelques autres fictions aussi qui vont arriver. Mais c'est un mois de documentaires. Il y a beaucoup de documentaires qui nous ont marqués pour ces deux mois-là, pour ces deux prochains mois.
Voilà.
Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et de très bons films. Au revoir, Martine.
Au revoir, Colin.